VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Eric Maniraquis en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du lundi 11 juillet 2016. À la une ce soir.
Juba, la capitale du Soudan du Sud, a été le théâtre de violents combats. Salva Kiir et Riek Machar ont appelé au cessez-le-feu.
Violence au Nigeria, des dizaines de villageois tués dans le centre du pays.
Au Mali, un élu local a été abattu dans la région de Mopti, où les djihadistes restaient très actifs.
Le Sénégal prend des mesures pour sortir les enfants des rues.
Nous sommes en train de faire le référencement avec les familles afin de les retourner dans le milieu d'origine.
Présidentielle américaine, Hillary Clinton et Donald Trump intensifient leur campagne séduction.
Et nous aurons l'économie et les sports juste après le journal.
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son rival Riek Machar ont appelé séparément au cessez-le-feu après 4 jours de combats meurtriers Djouba entre forces loyalistes et ex-rebelles. Claire Morin-Gibourg.
Le président Salva Kiir a ordonné à ses troupes aujourd'hui un cessez-le-feu. Le vice-président Riek Machar, imitant son rival sur une radio locale, a aussi appelé ses soldats à cesser les combats. Depuis vendredi, les affrontements auraient fait près de 300 morts. Des chars, des hélicoptères de combat et l'artillerie lourde ont crépité pendant 4 jours à Djouba, la capitale. Des milliers de civils apeurés ont dû fuir les quartiers les plus touchés. Près de 7000 ont trouvé refuge dans un camp de l'ONU. D'autres se sont abrités dans les églises. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé au Conseil de sécurité de décréter un embargo immédiat sur les armes et de nouvelles sanctions ciblées contre les fauteurs de troubles. Ces nouvelles violences coïncident avec le 5e anniversaire de l'indépendance du plus jeune pays au monde.
Au Nigeria, des éleveurs peuls ont tué des dizaines de villageois ces 2 dernières semaines dans l'état de Benue, dans le centre du pays. Théâtre de conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Idriss Fall nous en dit plus.
Taïeb Aguerzoua, porte-parole du gouvernement régional, a affirmé que des dizaines de personnes ont été tuées depuis 2 semaines par des éleveurs peuls dans au moins 10 communautés de l'état de Benue. Les télévisions locales avancent le chiffre de 81 victimes dans les régions de Logo et Oukoum. Moses Yamou, porte-parole de la police de l'État, a confirmé ces tueries tout en assurant que le calme est revenu. En février, des centaines de personnes ont été tuées dans la région d'Agatou. Ces affrontements faisaient suite au meurtre d'un chef peul et au vol de son bétail. Les éleveurs peuls sont des nomades musulmans. Depuis plusieurs années, ils s'opposent aux agriculteurs locaux qui sont chrétiens à propos de droits de pâturage ou de partage des ressources hydrauliques.
Idriss Fall, au Mali, un élu de la région de Mopti, dans le centre du pays, a été abattu aujourd'hui par des hommes armés et non identifiés. L'adjoint au maire de la commune de Ouromodi a été tué alors qu'il se trouvait dans son champ. Le point avec notre correspondant à Mopti, Mamadou Boukom.
2 individus enturbanés et non identifiés ont tué un responsable de la commune de Ouromodi ce lundi. Il s'agit de Kola Hussein Dia, 58 ans, enseignant de profession et premier adjoint au maire. Il était dans son champ accompagné d'un de ses frères. Aux alentours de 13h-14h, 2 individus sont arrivés à moto sur les lieux. Immédiatement, ils lui ont tiré à bout portant, mais son frère a été épargné. Après leur forfait, les auteurs de ce crime ont pris la fuite. La population a fait appel à la gendarmerie pour faire le constat sur place. Un règlement de compte ou un acte terroriste, la suite des enquêtes pourrait nous édifier sur leur motivation. Mamoudou Boukouma Mopti pour VOA Afrique.
Concernant la lutte contre le terrorisme dans la région, le président nigérien appelle à la création d'une force multinationale mixte d'Afrique de l'Ouest contre le terrorisme sur le modèle de celle opérant dans la région du lac Tchad. Mamadou Issoufou s'exprimait à l'ouverture d'un sommet des présidents du Conseil de l'Entente à Niamey. Ils devront œuvrer pour le renforcement du mandat et des effectifs de la MINUSMA, la force de l'ONU au Mali, en vue de mener des offensives contre les forces terroristes de tout genre opérant au Nord Mali, a affirmé M. Issoufou.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, ici aux États-Unis, les manifestations anti-violence policières se sont poursuivies ce week-end dans plusieurs villes du pays. Jacques Aristide a les détails.
De San Francisco à Atlanta, en passant par Phoenix et Memphis, des protestataires sont de nouveau descendus dans les rues à l'appel notamment du mouvement Black Lives Matter. Traduisez les vies noires comptent. Des interpellations ont eu lieu dans plusieurs villes. Les manifestants voulaient rendre hommage à deux Africains-Américains abattus par des policiers la semaine dernière à Baton Rouge, en Louisiane, et à Saint-Paul, dans le Minnesota, des incidents qui ont été filmés par des témoins. Un autre noir a succombé après avoir été touché par des tirs policiers samedi à Houston, au Texas. Alva Braziel portait une arme de poing qu'il a refusé de lâcher, selon la police. Hier, depuis Madrid, en Espagne, le président Barack Obama a renouvelé ses appels au calme en précisant que les attaques contre les policiers desservaient la cause de ceux qui s'inquiètent légitimement des carences du système judiciaire américain. Il a écourté son voyage pour se rendre demain à Dallas, où il s'exprimera lors d'une cérémonie œcuménique. Le vice-président Joe Biden sera également présent, tout comme l'ancien président républicain et ancien gouverneur du Texas, George W. Bush, qui devrait prendre la parole avec son épouse Laura.
Et dans la dernière ligne droite de sa présidence, Barack Obama se retrouve à l'épreuve de Dallas de rassembler un pays meurtri et d'offrir une vision d'avenir sur les questions hautement sensibles des armes et des tensions raciales. Chaque nouvelle fusillade d'Orlando à Dallas apporte son cocktail de questions qui empoisonne le débat et dresse les Américains les uns contre les autres. La révolution est unanime, mais aucune réaction commune n'émerge.
Le chef du Pentagone, Ashton Carter, a annoncé aujourd'hui à Bagdad l'envoi en Irak de centaines de soldats américains supplémentaires pour aider les forces gouvernementales à lutter contre le groupe État islamique et reprendre la ville de Mossoul. Après ce nouveau déploiement, les États-Unis compteront plus de 4600 militaires en Irak, essentiellement pour des missions de formation des troupes gouvernementales.
Le médiateur de l'ONU en Syrie a estimé aujourd'hui que le moment était crucial pour trouver une solution combinant la lutte contre l'État islamique à la transition politique dans ce pays. Stéphane de Mistura a estimé en outre que la clé réside dans une possible entente entre la Russie et les États-Unis.
Le Caire renoue officiellement avec Tel Aviv. Sameh Shoukry, chef de la diplomatie égyptienne, est en visite en Israël. La première du genre en 9 ans, il a rencontré le premier ministre Benjamin Netanyahou pour tenter de relancer les négociations israélo-palestiniennes. Salwa Jafari.
Une visite inédite et elle fait suite à la proposition en mai dernier par le président égyptien Abdel Fattah Sisi d'aider à relancer le processus de paix israélo-palestinien au point mort depuis plus de 2 ans. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été le premier à s'en réjouir.
Je me réjouis de la récente offre du président Sisi pour faire avancer la paix avec les Palestiniens et une paix plus large dans notre région. Aujourd'hui, je demande à nouveau aux Palestiniens de suivre l'exemple courageux de l'Égypte et de la Jordanie et se joindre à nous pour des négociations directes.
The visit comes in the context of President el-Sisi's vision, which he
elaborated. Le ministre égyptien, pour sa part, a souligné une situation en constante détérioration sur le terrain et la nécessité de créer des conditions pour un dialogue direct. Le jour même de la visite du diplomate égyptien, le gouvernement israélien a annoncé avoir débloqué près de 13 millions de dollars pour les colonies juives de Kiryat Arba, Hébron, en Cisjordanie occupée, après une série d'attaques palestiniennes. Par ailleurs, un tribunal israélien a condamné lundi un Palestinien à la prison à vie pour avoir perpétré une attaque meurtrière à l'arme à feu et au couteau dans un autobus de Jérusalem en octobre dernier.
Le président Recep Tayyip Erdogan a défendu son projet d'accorder la citoyenneté turque aux réfugiés syriens en Turquie, une démarche qui a provoqué une vive controverse. Ils sont quelque 2,7 millions de Syriens à avoir trouvé refuge en Turquie depuis le début du conflit dans leur pays en 2011. Et seuls 10% environ vivent dans des camps. Les autres se battent pour s'intégrer à la société et au marché du travail.
Des milliers de personnes ont rendu hommage aujourd'hui à 127 victimes de Srebrenica en Bosnie. Quelques 8000 hommes et adolescents musulmans avaient été exécutés par les forces serbes de Bosnie en juillet 1995, pire tuerie commise en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. La justice internationale a considéré ce crime comme étant un acte de génocide.
Les États-Unis et l'Union européenne ont repris aujourd'hui les pourparlers pour tenter de sceller un accord commercial avant la fin de l'année, en dépit d'une opposition croissante de l'Allemagne et de la France et du choc lié au vote britannique pour quitter l'Union européenne. Les négociations doivent durer jusqu'à vendredi.
La ministre de l'Intérieur, Theresa May, prendra les rênes du gouvernement britannique mercredi. Le Premier ministre sortant, David Cameron, doit présenter sa démission à la reine le même jour après les questions au Parlement.
De nouveaux heurts entre manifestants et police ont éclaté aujourd'hui au Cachemire indien. Ces protestations, d'une ampleur inédite depuis 2010, ont été provoquées par la mort d'un chef rebelle. Le bilan est de 30 morts en 3 jours de violence. Après près de 300 personnes, dont 100 policiers, ont été blessés dans les heurts et les hôpitaux sont débordés.
Et des victimes israéliennes et américaines d'attaques palestiniennes ont engagé aujourd'hui à New York une action en justice contre Facebook. Motif, le réseau social permet au groupe islamiste Hamas de l'utiliser. Et cette action civile a été introduite par l'ONG Shurat Adin au nom des membres de la famille de 4 Israélo-Américains et d'un Américain tué depuis le début en octobre d'une vague de violence dans les territoires palestiniens à Jérusalem et en Israël.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Nathalie Barge.
Le Mali a produit plus de 70 tonnes d'or en 2015, un volume nettement supérieur aux 53 tonnes de l'année précédente. Ce résultat est dû à une augmentation de la production artisanale selon l'Institut national des statistiques. C'est un secteur dynamique qui pourrait produire presque autant que les sociétés minières. Voilà pourquoi les autorités doivent organiser le secteur, a déclaré le président de la Chambre des mines, Abdoulaye Pona. La filiale du groupe bancaire gabonais BGFI au Cameroun financera une partie du projet de construction d'un stade de 50 000 places à Japoma, près de Douala. L'accord devrait être signé dans les prochains jours, selon Financial Afrique. La filiale accordera également un crédit au gouvernement camerounais pour le financement d'un stade de 60 000 places à Olembe. La Caisse de dépôt et de développement de Mauritanie va bénéficier d'un prêt de 20 millions de dollars sur 4 ans du Fonds arabe pour le développement économique et social. La mission de la CDD est notamment de développer le microcrédit dans des secteurs non couverts par des organismes publics ou privés et d'apporter des garanties aux bailleurs de fonds sur des projets identifiés.
Nous passons au sport avec Nicolas Pinot. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric.
Nous commençons par le football des Portugais accueillis en héros à Lisbonne.
Cristiano Ronaldo, Fernando Santos, Eder brandissant la coupe en sortant de l'avion Eusebio à Lisbonne. Sous les vivas de la foule, très attendus, les héros de tout un peuple sont rentrés ce lundi dans un pays qui va pouvoir enfin célébrer cette victoire à l'Euro 2016. 12 ans après l'immense déception provoquée par la défaite en finale de son Euro 2004, le Portugal a enfin remporté son premier titre international majeur. Les supporters ont fêté ce triomphe historique bruyamment jusque tard dans la nuit dans les rues de Lisbonne. La France, elle, essuie ses larmes. Ce lundi, les joueurs ont été reçus à l'Elysée par François Hollande.
Et la justice béninoise passe à l'attaque, Nico.
Issoudine Ibrahim, juge d'instruction du tribunal de Porto Novo, vient de lancer un mandat d'arrêt contre tous les membres du bureau de la Fédération béninoise de football, ainsi que tous les membres du CONOR. Quant aux représentants de la FIFA présents à l'Assemblée générale élective, un mandat d'arrêt international est décerné contre eux. C'est un revirement spectaculaire dans la crise qui secoue le football béninois. Une crise qui s'est accentuée depuis l'élection contestée il y a quelques semaines de Anjorin Moucharafou comme président de la dite fédération.
NBA, championnat du basketball nord-américain, Tim Duncan raccroche après 19 saisons avec San Antonio.
L'emblématique joueur des Spurs a décidé à 40 ans de mettre un terme à sa carrière. Cette décision était largement anticipée par les dirigeants des Spurs et leurs supporters. Duncan était sous contrat jusqu'en 2017, mais il avait indiqué à l'issue de la saison dernière qu'il souhaitait réfléchir avant de poursuivre ou non sa carrière.
VOA Afrique.
Morgan Guiriac et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Soudan du Sud.
Tout à fait, Morgan. La capitale Djouba a été le théâtre aujourd'hui de violents combats, et ce pour la deuxième journée consécutive. Les forces loyalistes et les ex-rebelles continuaient de s'affronter malgré l'appel au calme de la communauté internationale. Le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar ont aussi appelé au cessez-le-feu. Ce jeune pays se dirige-t-il vers une nouvelle guerre civile en 5 ans d'existence? Pour une analyse, Jacques Aristide a posé cette question. Slimane Baldo, expert de cette partie de l'Afrique, joint à New Jersey.
C'est une lutte pour le pouvoir. Et apparemment, il y a certains dans les rangs du gouvernement et dans les rangs de l'opposition armée à la fois qui veulent en découdre jusqu'à la dernière homme. Et malheureusement, ça va être la population civile qui va en bâtir le plus. C'est la rivalité entre le président Salva Kiir, chef de l'État, chef de parti unique au pouvoir, Sudan People Liberation Movement en armée, et son vice-président, Riek Machar, qui est en opposition. Les deux se sont engagés dans une guerre civile décembre 2013. Il y a eu un accord de paix du mois d'août l'an dernier, 2015. Mais disons, il y a eu plusieurs rechutes de cessez-le-feu et la rivalité semble continuer. Et donc, c'est une situation très grave parce que le Sud-Soudan vraiment peut faillir comme un État si ses chefs, ses leaders ne se montrent pas plus responsables et plus conscients de la gravité de leur action.
La communauté internationale doit-elle se montrer plus sévère, d'après vous?
Ben certainement, c'est le manque de conséquences pour les manquements précédents au respect de l'accord de paix qui a encouragé les hardliners, les membres durs de chaque camp, à chercher une victoire militaire sur l'autre partie. Maintenant, on est en train de recueillir ce manque de fermeté de la part de la communauté internationale envers les leaders de Sud-Soudan. Le problème, en ce moment, alors que, disons, on se tire dessus à Djouba par canon, par hélicoptère, et avec la situation civile prise dans le feu croisé, le problème, c'est qu'on ne sait pas si les leaders politiques sont en mesure de contrôler les forces qu'ils réclament, qu'ils contrôlent.
Est-ce le retour d'une guerre civile à grande échelle, d'après vous?
Je crois que c'est pas seulement une guerre civile, disons les rivalités politiques et militaires entre les deux chefs, Salva Kiir et Riek Machar, se traduit par une polarisation ethnique. Ce n'est pas seulement une question de polarisation ethnique, bien sûr, le contrôle de pouvoir, c'est aussi le contrôle des ressources. Et la question de corruption de leaders politiques du Sud-Soudan est au cœur de ce problème.
Slimane Baldo, expert du Soudan du Sud, était en ligne du New Jersey aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Et nous partons maintenant au Bénin. Les concours d'entrée au ministère de l'économie et des finances ont été annulés pour fraude. Pourtant, des centaines de jeunes avaient été ainsi recrutés. Cette annulation prise à l'issue des travaux d'une commission est saluée par les syndicalistes qui dénoncent régulièrement la corruption au sein de l'administration publique béninoise. De Cotonou, la correspondance de Ginette Floradandé.
C'est dans la clameur que certains Béninois ont accueilli la nouvelle. Les concours directs organisés en 2015 au profit du ministère de l'économie et des finances sont annulés aussi. Les concours seront repris et organisés suivant les tests en vigueur et en relation avec la direction de l'office du baccalauréat et la direction des examens et concours. C'est un soulagement dans le monde syndical. On applaudit la décision et on espère qu'il n'y aurait pas un rétropédalage sous la pression de certains qui fustigent la décision.
Et on pourra dire que c'est le triomphe du bon sens.
Pas une victoire d'une classe sur une autre, mais notre préoccupation, c'est l'emploi. L'insertion des jeunes. C'est vrai, la fonction publique seule ne peut pas résorber le problème de chômage dans notre pays.
Je suis heureux que les préoccupations de la CGTB pour les travailleurs, pour la jeunesse, soient prises en compte par l'actuelle mandature. Mais je voulais préciser que moi, je ne veux pas m'accaparer de tous les résultats de cette lutte parce que à un moment donné, d'autres confédérations se sont jointes à nous.
Le gouvernement Talon est allé encore plus loin car les agents de l'État responsables des 23 défaillances et irrégularités relevées dans l'organisation, des concours incriminés sont déchargés de leurs fonctions et des procédures disciplinaires à l'encontre des mises en cause seront engagées, de même que des procédures judiciaires. Pour l'analyste des questions sociopolitiques, Rodrigue Azinogbe, ne pas annuler ces concours aurait été un échec cuisant pour le président Talon.
Il ne peut en être autrement, vu que si on se rappelle tout ce qui a entouré l'organisation, le déroulement et la proclamation des résultats de ces concours. Il y avait trop de choses louches qui étaient visibles, même si c'était invisible pour certaines personnes. Et il ne fallait pas faire Sorbonne pour comprendre qu'il y avait anguille sous roche. C'était plutôt une vaste escroquerie basée sur un mercantilisme qui ne dit pas son nom. En gros, c'est une honte nationale que d'organiser cette fraude à grande échelle. Étant donné que c'était le dernier grand recrutement du régime précédent, il fallait coûte que coûte faire passer les fils de certaines personnalités.
Il faut dire qu'au lendemain de la décision, certains jeunes sont descendus dans les rues pour exiger des anciennes autorités le remboursement des millions empochés pour favoriser leur admission à ces concours. Les prochains jours seront déterminants car les admis au concours annulé menacent de saisir la justice. De Cotonou, Jeanette Fleur-Adandé pour VO Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Cap sur le Sénégal pour parler des talibés. Après des années de promesses, les autorités prennent des mesures concrètes pour empêcher les enfants de se retrouver dans les rues. Des structures du ministère de la Famille arpentent Dakar pour les récupérer. 172 enfants ont déjà été sortis de la rue. Nombreux sont ceux qui applaudissent tout en demandant des mesures d'accompagnement. Le reportage de Sorna Natambay.
Les chiffres sont depuis toujours alarmants. Des centaines de milliers d'enfants laissés à eux seuls dans les rues de la capitale et autres villes du pays. La plupart sont des talibés. Avec ce programme d'urgence de retrait des enfants de la rue, l'État veut frapper fort. Nyorobaï Diouf, directeur de la protection de l'enfance.
Nous sommes en train de faire le référencement avec les familles afin de les retourner dans leur milieu d'origine. Mais auparavant, les parents seront sensibilisés sur la nécessité de garder les enfants ou bien au niveau des darras, au niveau des familles, mais pas dans la rue.
Au début du programme, les premiers ont été transférés vers le village d'enfants SOS. Daïmbana Touré, coordonnatrice du projet de réintégration des enfants de la rue et des talibés.
Nous avons reçu 33 enfants issus de 14 familles et nous les avons pris en charge. Aujourd'hui, à cette date, les enfants sont tous retournés en famille. Nous les avons nourris quand ils étaient là, logés, nourris. Nous avons assuré leur protection. Et puis nous les avons retournés famille par famille jusqu'à leur foyer. Donc nous savons où ils habitent. Nous avons leurs coordonnées téléphoniques. En tout cas, nous ferons tout notre possible pour garder ses enfants au sein de leur foyer.
Des maîtres coraniques sont d'accord avec la décision du gouvernement. Une décision salutaire mais tardive, c'est l'avis de ce père de famille, choqué par l'image des enfants de la rue.
L'État devait prendre cette décision depuis très longtemps pour diminuer au moins la mendicité de ces enfants qui traînent dans les rues. Et puis, une fois que c'est fait aussi, il faut essayer de les mettre quelque part et de leur donner une bonne condition de vie, de les recaser.
Malgré plusieurs tentatives de retrait des enfants de la rue, l'État ne compte pas faire machine arrière. Cette fois-ci, le président Macky Sall a voulu être clair. Ce n'est pas contre les écoles coraniques, mais juste protéger les enfants. Sorna Natambay, Dakar, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
On passe maintenant à notre segment quotidien sur la campagne présidentielle américaine 2016. Côté démocrate, c'est demain que le sénateur Bernie Sanders se joindra à la candidate présumée Hillary Clinton dans le New Hampshire. Et dans le camp républicain, Donald Trump prononce un discours sur la situation des anciens combattants. Alors on fait le point avec vous, Timothée Donangmaï.
Alors Morgan, commençons par la campagne d'Hillary Clinton. Son camp espère franchir une étape décisive lorsqu'elle partagera la scène mardi dans l'État du New Hampshire avec son adversaire malheureux des primaires, le sénateur Bernie Sanders. Alors le choix du New Hampshire n'est pas dû au hasard. C'est dans cet État que Sanders avait gagné avec une grande marge lors des premières élections primaires. Un appui sans réserve du sénateur du Vermont devrait permettre à Mme Clinton d'intensifier ses efforts vers les partisans de Sanders, encore nombreux à rejeter toute idée de voter pour l'ancienne secrétaire d'État. M. Sanders lui-même entretient le mystère. Cependant, un communiqué identique publié ce lundi par les deux camps dit que Sanders et Clinton discuteront, et je cite, « leur engagement à construire une Amérique qui est plus forte ensemble, une économie qui marche pour tout le monde, pas seulement pour ceux du sommet ». Fin de citation. Bien qu'ayant perdu aux primaires, Bernie, comme l'appelle affectueusement ses partisans, a obtenu l'inclusion de certaines de ses idées dans le programme démocrate.
Et chez les Républicains, Tim, Donald Trump présente ce lundi à Virginia Beach, en Virginie, ses idées sur l'appui aux anciens combattants.
Et oui, Morgan, c'est un exercice dont l'objectif est de persuader les Républicains encore sceptiques que Donald Trump a les ressources nécessaires pour mener une campagne victorieuse contre Hillary Clinton. M. Trump a évoqué le massacre de 5 policiers à Dallas et demandé la fin de ce qu'il appelait la grande hostilité à laquelle font face les forces de l'ordre. La mort de 2 Africains-Américains récemment tués par la police montre qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, a-t-il ajouté. Donald Trump a sévèrement critiqué la candidate démocrate présumée Hillary Clinton, disant qu'il est le candidat de la loi et de l'ordre, de même que le candidat de la compassion. L'Amérique doit honorer ses promesses aux femmes et aux hommes et en servir dans l'armée. Vous défendez l'Amérique et l'Amérique vous défendra, a-t-il déclaré. Le candidat républicain présumé a dénoncé les problèmes de l'agence chargée des anciens combattants dont il avait qualifié l'État en octobre d'absolument inacceptable. Il faut dire, Morgan, que Donald Trump tente ici de s'attirer les bonnes grâces des anciens combattants depuis qu'il avait déclaré que le sénateur républicain John McCain, un ancien combattant et héros de guerre très respecté, n'était pas vraiment un héros parce qu'il a été fait prisonnier au Vietnam.
Merci, Tim.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Jonas Cummings. Présentation, Morgane Guiriec et Eric Manilakidz.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Disons un grand merci à nos 1 250 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Merci également à tous ceux qui nous écoutent à la radio. Et puis n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM, 91.5 FM, Bujumbura, Raga FM, 90.5 Kisangani, Sabou FM, 96.6, Kindia, Guinée, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.